RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 95-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires. Et ensuite, nous allons également présenter l'histoire d'aujourd'hui et l'Indonésie. L'herbe suivante, magazine culturel et apprendre l'indonésien. Avant de terminer cette émission, vous allez écouter des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi de commentaires.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. L'Indonésie raconte le succès économique à l'agenda du FMI. La directrice générale du FMI apprécie la politique du gouvernement indonésien dans le domaine des PME. Le vice-président en visite en Afghanistan. Le contingent de Garuda est devenu l'épine dorsale des opérations maritimes de la FINUL. L'Indonésie est prête à devenir un monde favorable aux enfants et enfants. Il y a une circulation d'argent dans 1,3 trillions rupiah grâce à la réunion du FMI et de la Banque mondiale, UBM. Voici le journal complet. Le gouvernement organisera un programme de voyage en Indonésie lors de la réunion annuelle du FMI et de la Banque mondiale à Bali en octobre. Aïda S. Budiman, chef du département international de la Banque d'Indonésie, a expliqué que le voyage en Indonésie montrerait les réalisations gagnées par l'Indonésie au cours des 20 dernières années. Précisément, sur la situation économique d'Indonésie après la crise économique de 1998. Aïda S. Budiman à Jakarta, Langdi a dit « La réussite de l'Indonésie dans la réforme et le maintien de son économie peut être une source d'inspiration pour les autres pays. » Le chef du groupe de travail de la réunion du FMI de la Banque mondiale 2018 de la Banque d'Indonésie, Peter Jacob, a ajouté que la réunion annuelle serait un moment extraordinaire à utiliser parce qu'à travers ce grand événement, le gouvernement n'a pas besoin de venir dans plusieurs autres pays pour promouvoir l'Indonésie. La directrice générale du FMI, Christine Lagarde, a déclaré que l'activité économique sur le marché de Tanah Abang montrait que l'Indonésie avait une grande force dans les industries du textile et du commerce. Il a été dit par Lagarde quand elle a visité le marché Tanah Abang à Jakarta lundi avec le président Joko Widodo. À cette occasion, Madame Lagarde a salué les réformes économiques par le gouvernement de Joko Widodo, entre autres avec les licences de plus en plus faciles pour les petites et moyennes entreprises ou PME.
I was impressed by the program of reforms that the president is leading.
Je suis impressionné par le programme de réforme dirigé par le président, la simplification pour les petites et moyennes entreprises qui, le mois prochain, pourra s'inscrire en un seul endroit avec une seule inscription. Je souhaite que lui et son équipe puissent continuer la réforme dans les infrastructures, l'éducation et le social. Je suis sûr qu'il y aura des progrès parce que l'économie mondiale est bien meilleure cette année et aussi l'année prochaine par rapport à la période précédente. Dans le même temps, le président Joko Widodo a expliqué sa raison d'inviter Lagarde à visiter Tanah Abang. Il voulait montrer la domination des micro, petites et moyennes entreprises ou des MPME en Indonésie. Le président Jokowi a également déclaré les efforts des entrepreneurs de MPME de faire face à l'ouverture et de la numérisation économique avec Lagarde lors d'une réunion au Palais Merdeka avant leur visite à Tanah Abang, le plus grand centre de commerce textile en Asie du Sud-Est. Le vice-président Yusuf Kala et son entourage sont partis pour l'Afghanistan mardi matin vers 6h10 via la base aérienne Halim Perdana Kusuma. Comme cité Antara mardi, le vice-président Yusuf Kala visite Afghanistan du 27 février au 1er mars 2018. Lors de sa visite en Afghanistan, Yusuf Kala devrait être en conférencière invité et partager ses expériences de paix dans le processus de paix de Kaboul. La visite sert également de suivi pour soutenir le processus de paix en Afghanistan. L'engagement de soutien à la paix en Afghanistan a également été déclaré par le président Joko Widodo lors d'une visite d'État dans le pays le 29 janvier 2018. C'était la deuxième visite du président d'Indonésie après la visite officielle du président Sukarno en 1961. Commencer une visite de travail au Liban, la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a été accueillie par les personnels de la marine du contingent de Garuda à KRI Usman Harun au port de Beyrouth dimanche. À 100 membres de la marine qui renforce les troupes maritimes de la force intérimaire des Nations Unies au Liban, au FINUL, la ministre Retno Marsudi a exprimé sa gratitude pour la contribution et le professionnalisme de la marine indonésienne dans la paix mondiale. Comme rapportait l'Agence nationale des nouvelles et de la radio, le contingent Garuda a contribué à maintenir la paix dans le Sinaï depuis 1957 ou seulement une décennie après l'indépendance indonésienne. Selon elle, le contingent Garuda est maintenant devenu l'épine dorsale des opérations maritimes de la FINUL. Grâce à la contribution continuelle et le record de la piste, l'Indonésie se propose pour devenir membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période de 2019-2020. La ministre indonésienne de l'autonomisation des femmes et de la protection de l'enfance, Yohana Yembise, a affirmé que l'Indonésie était déterminée à devenir l'un des pays qui s'efforceront de créer un monde favorable aux enfants. C'est ce qu'a affirmé la ministre à la 5e conférence islamique des ministres en charge de l'enfance sur le thème « Réaliser un monde respectueux des enfants » qui s'est tenu à Rabat au Maroc dimanche. Par un communiqué de presse, la ministre Yembise a confirmé que l'Indonésie continuerait à protéger les enfants contre toutes les formes de violence, notamment en appliquant la Convention relative aux droits de l'enfant dans le cadre du programme des districts et villes Amis des enfants. En outre, on fait la prévention de violences contre les enfants à travers le Forum national des enfants à 34 provinces indonésiennes jusqu'au niveau du village. Il a également révélé que les efforts d'Indonésie pour lutter contre la maltraitance des enfants par la fourniture de services aux victimes de la violence, notamment en créant un centre de services intégré pour la protection des femmes et des enfants dans toutes les provinces et de 138 résidences et villes en Indonésie. La série des réunions annuelles du Fonds monétaire international FMI et de la Banque mondiale BM à Bali du 8 au 14 octobre 2018 ajoutera à la circulation de l'argent sur l'île au moins de 100 millions de dollars américains ou 1,3 trillion rupiah. C'est ce qu'a déclaré lundi à Jakarta le chef de l'unité de réunion annuelle 2018 de la Banque mondiale et du FMI, Peter Jacob. Il a déclaré que les chiffres d'estimation étaient basés sur des calculs de location de chambres d'hôtel, de billets d'avion et de services de transport seront utilisés par 15 000 délégués du monde entier. Ce nombre n'a pas été ajouté à la dépense de tourisme ou d'autres dépenses faites par 15 000 délégués. La valeur de la vitesse de l'argent n'est pas encore ajoutée à l'accord d'investissement ou à l'accord commercial qui seront approuvés par les délégués dans la série de réunions. Le gouvernement indonésien, en tant que comité organisateur, estime que la réunion annuelle du FMIBM 2018 réunira 4000 délégations officielles au niveau ministériel, le gouverneur de la Banque centrale et son équipe de 189 pays membres de la Banque mondiale. Les délégués comprendront également 5000 investisseurs, 1500 employés du FMI et de la Banque mondiale et des milliers d'entrepreneurs, ainsi que 1000 journalistes. Le sommet de la réunion FMIBM 2018 aura lieu du 12 au 14 octobre 2018. Cependant, des événements interrompus tels que des discussions et des réunions d'affaires dans la série de réunions se dérouleront du 8 au 14 octobre 2018. C'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Les commentaires, le point de vue de RRI World Service, la Voix de l'Indonésie sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Chers auditeurs, voici donc le commentaire et pour le titre « Blusukan » de la directrice générale du FMI. La directrice générale du Fonds monétaire international FMI, Christine Lagarde, est arrivée en Indonésie le 26 février 2018. Christine, première femme à occuper le poste le plus élevé au FMI, est devenue la principale conférencière de la Banque d'Indonésie et du FMI le 27 février 2018. Compte Twitter @IMF informe que l'objectif de l'événement était l'analyse des tendances mondiales et comment les pays s'adaptent au changement global tout en prospérant encore. Un autre ordre du jour était de discuter des derniers développements économiques et des perspectives de l'Indonésie, ainsi que de la réunion annuelle du FMI et de la Banque mondiale à Nusa Dua, Bali, en octobre 2018. Ces deux questions étaient le sujet de sa rencontre avec le président indonésien Joko Widodo au Palais Merdeka. Ce qui est intéressant, Christine Lagarde a également été invitée par le président Joko Widodo à Blusukan pour vérifier sur place à deux endroits, à savoir l'hôpital central de Pertamina et le centre de gros de Tanah Abang. À l'hôpital central de Pertamina, Christine Lagarde a été témoin des services pour les participants de la carte saine de l'Indonésie, ou KIS, ainsi que du système de sécurité sociale pour la santé. En particulier, Christine a exprimé qu'elle a impressionné le service de santé gratuit pour les plus de 90 millions de personnes et a offert un salut au président Joko Widodo. La deuxième place qui est devenue sa destination Blusukan est le centre de gros de Tanah Abang. Dans l'endroit, il y a environ 19 000 stands et c'est le plus grand en Asie du Sud-Est. Christine Lagarde a directement été témoin de l'enthousiasme, de l'énergie et du service des micro et petites entreprises. Elle considère que tout cela montre le dynamisme de la société et de l'économie indonésienne. En regardant directement les services de santé et les micro, petites et moyennes entreprises à Jakarta, on s'attend à ce que beaucoup de choses puissent être promues par la directrice générale du FMI, Christine Lagarde, au sujet de l'Indonésie dans le monde. Ces deux éléments pourraient être importants dans la mise en œuvre de réunion annuelle de la Banque mondiale et du FMI en octobre prochain. En effet, l'Indonésie mène une campagne intitulée « Voyage vers l'Indonésie 2018 » en tant qu'une série d'activités en prévision de la prochaine réunion annuelle du FMI. La visite de la directrice générale du FMI devrait avoir un impact positif pour attirer les investisseurs dans le secteur de la santé. Christine Lagarde elle-même a acheté une chemise coco chez Tanah Abang. Bien sûr, ce sera également une promotion directe des petites et moyennes entreprises indonésiennes. Nous espérons que non seulement pour attirer des milliers de participants aux réunions annuelles du FMI pour participer à l'achat de produits ou MKM, mais aussi pour ouvrir la porte d'exportation des produits des petites et moyennes entreprises indonésiennes. Serviteur, c'était le commentaire pour ce soir.
Thank you.
les faits historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Irnésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire aujourd'hui. Le 27 février 1971, le professeur Dr. Suharto est décédé. Il est un combattant humanitaire né le 13 mai 1912 dans le village de Kembang, district d'Ampel, Boyolali. L'année 1945, Dr. Suharto et ses collègues ont formé une branche de PMI à Surakarta pour aider les combattants indépendantistes. En 1946, Dr. Suharto a fabriqué les prothèses et les orthèses parce que tant de jeunes hommes étaient handicapés par la guerre. Grâce à la sincérité de sa lutte humanitaire, Dr. Suharto a remporté de nombreux prix tant à l'intérieur qu'à l'étranger. Il est mort le 27 février 1971 et a été enterré dans le village de Sempoto, Boyolali. L'État a attribué à Suharto le titre de héros national par un décret présidentiel le 6 novembre 1973. Outre l'hôpital et les noms de rue de Solo, Suharto a également été immortalisé pour le nom d'un navire de guerre de l'armée nationale indonésienne. Le 27 février 2007, le Palais Pagaruyung à Sumatra West brûle. Istana Basa Pagaruyung, ou plus célèbre avec le Palais de Pagaruyung, est situé dans le complexe du Palais Royal Minangkabau dans la ville de Batu Sangkar, district Tanah Datar, Sumatra West. Le mardi 27 février 2007, le complexe du Palais de Pagaruyung a brûlé par la foudre. On estime que seulement 15% des objets de valeur ont survécu. Le trésor du patrimoine du royaume de Pagaruyung est stocké à Istana Silinduang Bulan, à 2 km de Istana Basa. La reconstruction du palais de Pagaruyung après l'incendie a commencé le 8 juillet 2007. Le 27 février 2010, le tremblement de terre a secoué le Chili et provoqué le tsunami. Un séisme d'environ 8,8 sur l'échelle de Richter a secoué la côte du nord de Chili. Le séisme a fait des victimes et détruit divers bâtiments. Selon les données, le 30 mars 2010, le nombre de morts était de 432. Le tremblement de terre a provoqué le tsunami dans l'océan Pacifique, atteignant la Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'archipel Hawaïen, les pays insulaires du Pacifique et le Japon, avec des impacts légers et modérés. Des avertissements de tsunami ont été donnés au Chili, au Pérou, à l'Équateur, à la Colombie, à l'Antarctique, au Panama et au Costa Rica. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Bonsoir chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Mon Indonésie, intitulée L'Indonésie et la Bulgarie renforcent leur coopération dans le secteur de nouvelles énergies renouvelables. L'Indonésie et la Bulgarie étudient la coopération en matière de recherche et de développement technologique pour augmenter les ressources en électricité utilisant la nouvelle énergie renouvelable. L'ambassadeur d'Indonésie en Bulgarie, Sri Antasari Rashid, lors du forum de l'innovation renouvelable à Jakarta, a déclaré jeudi qu'il y avait encore beaucoup de potentiel que les deux pays peuvent explorer et cette voie sera développée pour les technologies de la nouvelle énergie renouvelable. La Bulgarie, par le B International Power Supply ou IPS, travaillera avec PTLEN, l'Institut de technologie Bandung, UITB, l'Université de la Défense pour réaliser une étude sur la technologie du développement. Cependant, Alexander Rangelov, en tant que directeur de IPS, a dit que la technologie dont il disposait sera facile à appliquer en Indonésie. Selon lui, la technologie bulgare est appropriée pour une utilisation dans les zones de panneaux solaires qui ont une humidité élevée et dans les régions éloignées. Avant le stade de développement technologique, IPS avec diverses institutions d'enseignement menera des recherches qui pourront être développées en augmentant le besoin en ressources électriques. Le ministre de l'Énergie et des Ressources Minérales, M. Ignatius Jonan, a souligné à cette occasion que la tâche principale du gouvernement est de veiller à ce que l'énergie produite soit équitable pour tous les niveaux de la société. Au cours de la réunion, Jonan a également ouvert la possibilité de travailler avec des représentants des entreprises bulgares pour développer la nouvelle énergie renouvelable. Jonan a estimé que la Bulgarie offre le développement de l'énergie solaire qui peut être optimisée dans les zones reculées et éloignées de l'archipel. Il a également insisté d'encourager la nouvelle énergie renouvelable en Indonésie à atteindre l'objectif de 23% de nouvelle énergie renouvelable en 2025. En 2025, la capacité installée de production d'énergie renouvelable en Indonésie pourra atteindre 45 000 MW. Et actuellement, la capacité installée est 7500 MW. Selon Ignatius Jonan, en plus d'être suffisamment disponible, l'énergie renouvelable doit être admissible à l'accessibilité, en plus de rendre l'approvisionnement en énergie plus fiable, plus de citoyens peuvent accéder. Une possibilité est d'appliquer l'électrification hors réseau et l'énergie renouvelable. Ignatius Jonan a déclaré que ce mécanisme permet le stockage d'énergie ainsi que la commutation automatique entre l'utilisation de l'énergie renouvelable et l'énergie conventionnelle. Cette technologie peut varier l'utilisation quotidienne entre l'énergie renouvelable et l'énergie conventionnelle. Cette technologie est déjà utilisée aux 58 pays. Chers amis, c'était la rubrique Modernisation de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel. Pesona Indonesia.
Bonsoir à tous, nous continuons notre émission avec le magazine culturel. Aujourd'hui, nous vous invitons à visiter la province Bengkulu. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonesia, La Voix Indonésie. Bengkulu, l'une des provinces à Sumatra, est connue comme l'habitat d'origine de Rafflesia arnoldi, la plus grande fleur du monde. Ainsi, Bengkulu reçoit le surnom la terre Rafflesia. Bordée directement par l'océan Indien et à une longue et belle côte, pas étonnant si cette province a beaucoup de belles plages. Les attractions côtières deviennent l'une des principales destinations à Bengkulu. Outre la plage, cette province a d'autres destinations touristiques naturelles, entre autres une cascade ou une chute d'eau. La cascade étant beaucoup visitée par de nombreux touristes en raison de sa beauté est la cascade Kei. La cascade Kei est située dans le village Bukit, sous-district Talang 4, en région Bengkulu Central. vous pouvez voyager par voie terrestre de la ville Bengkulu à l'endroit avec une distance d'environ 25 km avec un temps de voyage de 45 minutes. Après être arrivé sur le site touristique, pour entrer par la porte du site touristique de la cascade Kay, on doit payer le frais de stationnement de 2000 roupias par véhicule à 2 roues et 4000 roupias par véhicule à 4 roues. Le voyage continue à pied sur le site touristique à environ 200 mètres à travers les résidents des plantations de caoutchouc et des escaliers jusqu'à 172 pièces à la zone de chute d'eau. En bas des escaliers est assez fatigant car la pente est jusqu'à 45 degrés. En arrivant sur le site touristique, vous serez surpris par la beauté de la cascade Kay. Cette cascade a une hauteur d'environ 12 mètres. Dans le voisinage, poussent encore des arbres imposants qui rendent l'atmosphère ici si fraîche. La cascade Kay a une zone de piscine de 15 à 20 mètres. L'eau est froide et claire. La profondeur de l'eau est d'environ 3 mètres. Vous pouvez directement sauter dans cette piscine de la cascade pour sentir la fraîcheur de l'eau. En plus de nager sous la piscine de la cascade, n'oubliez pas de capturer tous les coins de la beauté de la cascade Kay. Si vous êtes fatigué, vous pouvez vous asseoir sur le siège fourni. Les sièges sont faits de bambou. Il y a deux sièges assez grands. Un siège est au-dessous de l'arbre, précisément au-dessous de la cascade. Sa taille est 2 mètres et il est très robuste. Dans l'autre, vous pouvez voir de beaux paysages. Cette zone touristique ne fournit pas encore de restaurant, donc si vous la visitez, c'est mieux d'apporter votre propre nourriture. Chers auditeurs, c'était le magazine Culture pour ce soir. Merci d'être fidèle avec nous. À demain.
Mari berbahasa Indonesia. Parlons indonésien. Vous invite à parler bien et facilement indonésien.
Bonsoir à tous, on se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous introduit le vocabulaire indonésien et vous guide pour parler en bahasa Indonesia. Cette émission est une collaboration entre la Voix de l'Indonésie avec l'Agence de développement et de renouvellement de langage du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République d'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est Pukul berapa? Je répète, Pukul berapa? Ou en français, quelle heure est-il? Allons-y! Et ensuite, je vais donner un exemple de conversation dont le titre « Pukul berapa » ou en français « Quelle heure est-il ?» C'est la conversation entre Tony A, qui vient de l'Angleterre, et le chauffeur de taxi. Chers amis, écoutons la conversation suivante. Tony, pukul berapa sekarang, Pak? Pukul berapa sekarang, Pak? Le chauffeur de taxi. Sekarang pukul 11 lebih 10. Sekarang pukul 11 lebih 10. Tony. Oh. Supir taksi. Oh. Le chauffeur de taxi. Tadi berangkat dari Jakarta. Tadi berangkat dari Jakarta. Tony. Ya, supir taksi. Pukul berapa Anda dari Jakarta? Pukul berapa Anda dari Jakarta? Tony, sekitar pukul 9. Sekitar pukul 9. Après avoir écouté cette conversation, je vais vous introduire des vocabulaires et des phrases indonésiennes liées au sujet d'aujourd'hui. Pukul berapa sekarang? Pukul berapa sekarang? En français, quelle heure est-il? 11. 11. En français, 11. 10. 10. En français, 10. Kurang. Kurang. En français, moins. 9. 9. En français, 9. Pukul 11 lebih 10. Pukul 11 lebih 10. En français, il est 11h10 minutes. Pukul 11 kurang 10. Pukul 11 kurang 10. En français, il est 11h moins 10. 15 menit. 15 menit. En français, 15 minutes. Ou le quart. Pukul 9 lebih 15 menit. Pukul 9 lebih 15 menit. En français, il est 9h15. Ou 9h15. Pukul 9 kurang 1/4. Pukul 9 kurang 1/4. En français, il est 9h moins le quart. Pour dire il est 11h10 minutes, vous pouvez dire pukul 11 lebih 10. Ou vous pouvez complètement dire pukul 11 lebih 10 menit. Pour dire il est 10h15, vous pouvez dire pukul 10 lebih 15 menit. Pukul 10 lebih 15 menit. Ou pukul 10 1/4. Pukul 10 1/4. Pour dire il est 8h55, dans la conversation d'habitude, on ne dit pas pukul 8 lebih 55 menit. Pukul 8 lebih 55 menit. Mais on dit souvent pukul 9 kurang 5. Pukul 9 kurang 5. Pour dire il est 11h moins le quart, en indonésien, vous pouvez dire pukul 10:45. Pukul 10:45. Ou vous pouvez simplement dire pukul 11 kurang 1/4. Pukul 11 kurang 1/4. Ou 11 kurang 1/4. Pour comprendre plus, écoutons la conversation encore une fois. Tony, pukul berapa sekarang, Pak? Pukul berapa sekarang, Pak? En français, quelle heure est-il, monsieur? Sopir taksi, sekarang pukul 11 lebih 10. Sekarang pukul 11 lebih 10. En français, il est 10h10 minutes. Tony, oh, supir taksi, tadi berangkat dari Jakarta? Tadi berangkat dari Jakarta? En français, vous venez de Jakarta? Tony, ya. En français, oui. Supir taksi, pukul berapa Anda dari Jakarta? Pukul berapa Anda dari Jakarta? En français, à quelle heure partez-vous de Jakarta? Tony, sekitar pukul 9. sekitar pukul 9. En français, vers 9h. Pour la situation formelle, comme par exemple dans la lettre ou les horaires, on utilise en Indonésie le système 24h. Pukul 8. Pukul 8, cela veut dire il est 8h du matin. Tandis que pukul 20. Pukul 20 signifie il est 8h du soir. Pukul 3. Pukul 3, c'est-à-dire il est 3h du matin. À l'oral, pour distinguer et clarifier le temps du matin et l'après-midi et du soir, les Indonésiens ajoutent habituellement le mot pagi, ou en français matin, siang, en français après-midi, sore, ou soir, en indonésien malam. Chers amis, voilà l'émission Apprendre l'indonésien pour aujourd'hui, intitulée Pukul berapa? Pukul berapa? En français, quelle heure est-il? J'espère que cette édition pourra être utile pour ceux d'entre vous qui veulent savoir plus l'indonésien. Nous allons également organiser un quiz dont le prix est intéressant. Bon, chers amis, merci à tous et au revoir.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir, serviteurs du service mondial de la voix d'Indonésie, n'importe où que vous soyez, on se rencontre dans la rubrique Le magazine musical. Cette édition, on écoutera des chansons de la région de Nusa Tenggara Ouest. Bon, chers amis, pour commencer notre rencontre d'aujourd'hui, écoutons donc une chanson intitulée Pai Murah Rame. Bonne écoute.
Oh,
Serviteurs, la région de Nusa Tenggara de l'Ouest a des sanctions traditionnelles qui deviennent les sanctions obligatoires de la région. La sanction que vous venez d'écouter, intitulée Paimura Rame, est l'une des sanctions de Nusa Tenggara de l'Ouest, ou NTB, qui est la sanction obligatoire de la région. Bien que l'on ne chasse pas qui le compositeur, la compositeur de NTB, a chanté cette chanson depuis longtemps ancien. Cette chanson raconte d'une situation où deux personnes veulent ressentir de la convivialité avec des sentiments plus lâches. Pour cela, ils promettent de se souvenir toujours les uns et les autres. Bon, serviteur, écoutons maintenant une autre chanson de NTB intitulée Bentanjangi. Bonne écoute.
Nyondeng ineng bentanjang sanak nonda sumbu nonda selit ke parana
Secretaire, voilà une autre chanson de la région de Nusa Tenggara de l'Ouest, intitulée Bentan Jangi, qui a été interprétée par une chanteuse indonésienne, Yuni Shara. Yuni Shara est la sœur aînée de la diva pop indonésienne qui s'appelle Krisdayanti. Elle a publié un album de chansons de NTB, dont l'une des chansons est Bentan Jangi. En plus de Bentan Jangi, une chanson intitulée Poto Tano est également incluse dans cet album. La chanson intitulée Poto Tano de Yuni Shara n'est pas entièrement d'avoir les éléments de la musique ethnique de NTB. Dans cette chanson, Yuni Shara a essayé de combiner des éléments de la musique pop pour être plus moderne et plus frais. Bon, chers auditeurs, avant de terminer notre programme, voici donc les deux chansons de NTB intitulées Poto Tano de Yuni Shara et bonne écoute et à la prochaine.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/frenca.
C'était des chansons indonésiennes. Ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Au revoir.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, la voix de l'Indonésie, RRI, au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta, 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également nous rejoindre sur Facebook, The Voice of Indonesia, et Twitter, @VOIINDONESIA, ou bien Instagram, voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.